RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
Et 15h06 sur RMC, journée de repos sur le Tour de France du côté de Carcassonne, la deuxième journée de repos sur ce Tour 2014. Et en attendant de partir en direct du côté de Carcassonne à partir de 17h dans l'Intégral Tour, on va se faire un grand plaisir. On va revivre cette deuxième semaine et on commence par la deuxième victoire d'étape française sur ce Tour. On est mercredi dernier, l'étape c'est Besançon-Oyonnax. Et le Français Tony Galopin est à ce moment-là dans le groupe de tête.
Tony Galopin est en train d'attaquer à 13 km 500 de l'arrivée, celui qui a porté le maillot jaune une journée le 14 juillet avant-hier. Tony Galopin qui est en train de faire la différence, il n'est pas pris en chasse. Tony Galopin est en train de prendre 100% de risque. Il est dans un état physique irréprochable, mais surtout sur un nuage. C'est l'euphorie qui lui fait faire ça, Cyril.
Ah, il y a une part d'euphorie et puis il est sur une dynamique absolument extraordinaire, même s'il n'a plus le maillot. Il est sur une fin d'étape, et on le sait, une fin d'étape qui lui va. Il joue son va-tout. Vous savez, dans son équipe, il n'y a plus personne. Vandenbroek est loin au classement général. À lui de jouer sa carte. On avait dit qu'il avait changé de statut. Il a vraiment changé de statut.
Et oui, ce maillot jaune a changé la mentalité, a changé le caractère de ce Tony Galopin. L'orgueil du champion Tony Galopin, porteur du maillot jaune avant-hier, et qui là est en train de faire un numéro, même s'il n'arrive pas tout de même à creuser les écarts sur Peter Sagan et tous les autres qui roule en tête de ce peloton. Il y a quoi? Une petite dizaine de secondes environ. 3 km 800 va l'arrivée. On rappelle qu'il y a donc 4 hommes en tête qui possèdent une cinquantaine de mètres d'avance seulement sur l'avant-garde du peloton, alors que justement la tête de course maintenant est au pied de la descente. On va donc être sur des routes planes jusqu'à l'arrivée dans quelques instants à Oyonnax, qui peut empêcher Peter Sagan de remporter enfin sa première victoire sur les routes de ce Tour 2014. Faites vos jeux, rien ne va plus messieurs. Lucho, qui peut l'empêcher?
Ah ben tous les autres,
tous ceux qui sont avec lui.
Mais non, il y a
Movistar qui vole derrière.
Ouais, mais ils vont pas se laisser faire devant avec Peter Sagan. Ils vont attaquer chacun leur tour. Ils vont pas emmener Peter Sagan sur un plateau sur l'arrivée. C'est pas possible.
Est-ce que ça peut lui échapper, Fred?
Oui, bien sûr que ça peut lui échapper. Peter Sagan est en train de réaliser une démonstration de force, bien sûr, mais une démonstration aux yeux de la concurrence. Et dans un final, est-ce qu'on va vouloir rouler avec celui qui fait figure d'épouvantail ici sur cette arrivée ici à Oyonnax, toute plate, lui qui est bien davantage qu'un sprinter, mais qui devrait arranger, comme disent les coureurs, arranger tout le monde en cas d'arrivée.
Et nouvelle attaque de Galopin.
Accélération de Tony Galopin à moins de 3 km de l'arrivée. Effectivement, Galopin qui a bien compris qu'en cas d'arrivée au sprint, avec Rogers, avec Kwiatkowski, mais surtout avec ce diable de Peter Sagan, il serait battu à coup sûr. Il vient de prendre 5-6 mètres d'avance derrière Peter Sagan. Veille, il a du jus, le Slovaque.
Ah non, il s'en va.
Et ça se regarde derrière. Mais oui, parce qu'ils attendent la réaction de Peter Sagan dans le final, puisque c'est le plus rapide. Donc il joue avec Peter Sagan, avec les nerfs de Peter Sagan, et il joue aussi avec, oui, il joue avec ses nerfs, et il va craquer.
Il va chercher la gagne, ça va être extraordinaire.
Science de la course consommée pour Tony Galopin, qui est définitivement un très beau styliste sur le vélo. Il se retourne, ça y est, il regarde sur la droite de la route,
au-dessus
de son épaule. Il aperçoit Michael Rogers, Peter Sagan et Michal Kwiatkowski à 10 secondes maintenant. Il passe sous la banderole des 2 km.
Voilà Tony Galopin qui a fait un petit écart maintenant avec ses 3 anciens compagnons d'échappée. Il donne tout ce qu'il a. Il appuie sur les pédales dans les derniers virages. Il y aura maintenant une longue ligne droite. 1 km 700 de l'arrivée. C'est tout droit. Les 3 hommes vont l'avoir en ligne de mire. Mais Tony Galopin donne tout. Fred,
il faut pas qu'il se retourne.
Tony Galopin, porteur du maillot jaune, on vous le rappelle, avant-hier en direction de la planche
des Belles Filles. 8 secondes.
Les mains en bas du guidon. Quelle position, quelle esthète Tony Galopin derrière. Ils ne s'entendent pas. Rogers, Kwiatkowski et Sagan. Le peloton, on vous le rappelle, est à un peu plus de 10 secondes seulement. Ils tiennent les échappés à portée de fusil, mais Tony Galopin semble lancer peut-être vers la deuxième victoire d'étape française sur ce tour.
Ce serait magnifique, 1 km 200,
pas,
Tony Galopin qui se retourne, mais qui est en train de creuser les écarts. Non, il n'y a pas encore énormément d'écart. On va passer dans un instant sous la flamme rouge du dernier kilomètre. Un homme seul en tête, c'est Tony Galopin, le Français.
La flamme rouge.
Va-t-il apporter la deuxième victoire d'étape française sur les routes de ce tour 2014? Il semble que les quart soit en train de se faire.
C'est bon.
Il ne se relève pas comme son mentor l'an passé, il y a deux ans, au sein de l'équipe américaine Trek et Radio Shack, Fabian Cancellara. Et bien Tony Gallopin est en train de faire le finisseur. Il a attaqué au bon moment, ça y est, derrière Roger Sagan et Kwiatkowski sont avalés par l'avant-garde du peloton. Tony Gallopin, 26 ans, qui s'est révélé au grand public il y a quelques jours avec la victoire de Tony Martin à Mulhouse, mais lui qui a roulé derrière et qui a bénéficié de cette coalition française pour endosser le maillot jaune est en train peut-être de filer vers sa première victoire d'étape sur le Tour.
Allez, 500 mètres, allez, allez, 500 mètres, Gallopin qui donne tout, qui se retourne, mais il a assez d'avance, il me semble que le peloton joue va tout. Tony Gallopin qui appuie, qui continue d'appuyer, il est maintenant à 300 mètres de la ligne d'arrivée, il se met en danseuse, il appuie une dernière fois sur les pédales, il ne sera pas repris, il va remporter la victoire, frère.
Quelle faculté de récupération de Tony Gallopin à l'ouvrage dans les Vosges. À 100 mètres de la ligne,
ça revient.
Greg Van Avermaet qui sprint, mais Tony Gallopin qui lève les bras et qui conserve une petite seconde d'avance sur la ligne d'arrivée. Deuxième victoire d'étape française sur ce Tour 2014 après la victoire de Blel Kadri. C'est Tony Gallopin, le héros français de ce début de Tour de France, qui vient souffler au nez et à la barbe des meilleurs finisseurs cette 11e étape ici à Oyonnax. Jour de gloire, deuxième du nom pour Tony Gallopin, 26 ans, coureur de l'équipe Lotto Bélisol, qui s'affirme aujourd'hui.
Pierre-Yves Leroux est derrière la ligne d'arrivée. Pierre-Yves, j'imagine que ça va être difficile d'approcher Tony, mais en tous les cas, quelle victoire d'étape.
Ouais, pour la photo avec Jürgen Vandenbroek qui vient de s'arrêter pour féliciter son partenaire, et Tony Gallopin qui est juste devant nous là, qui récupère tranquillement avec son attaché de presse, le poing levé, le cri pour Tony Gallopin, évidemment heureux. Attends, on va glisser le micro quand même pour Tony, pour voir si on peut avoir quelques mots. Ça va être compliqué parce que c'est la bousculade là, avec les photographes, et il va être ramené directement vers la zone protocolaire. Il a fait un effort incroyable, et il y a eu, je peux vous dire, une clameur au moment où tout le monde a compris que c'était bon pour la victoire. Tony Gallopin qui l'emporte et qui va se diriger maintenant pour remonter une nouvelle fois sur le podium, mais cette fois ça sera pour la victoire d'étape.
Un champion est-il né sur ce tour en la personne de Tony Gallopin? C'est la question que l'on se pose, que l'on vous pose ce soir au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Thierry, est-ce que tu as été bluffé par le sens tactique de Tony Gallopin aujourd'hui et par sa puissance dans le final?
Oui, plus que la victoire, on a vu vraiment la tactique et le point d'honneur qu'il a mis, vraiment, parce qu'il a attaqué la première fois où il fallait, quand tout le monde avait mal, quand tout le monde avait besoin de respirer. Il a attaqué, il est bien sorti. Il se fait reprendre. Déjà, il a insisté lourdement parce qu'il y en a d'autres qui se seraient relevés. Il se fait reprendre par, non pas des Branquignoles, mais des Rogers et des Kwiatkowski.
Et des Sagan aussi.
Et Sagan, le Sagan. Là-dessus, il fait le mort, il se met derrière. Il n'a pas roulé, bien sûr. Avec Sagan, on ne roule pas parce qu'on est sûr de perdre. Et puis, il attend que tout le monde se marque et il en remet une à 3 km pour aller gagner. Et là, franchement, on voit, contrairement à Sagan, la science de la course. Ouais. Franchement, il a ça dans le sang. Ça s'invente pas. Il sent la course. Il sent. Bon, il l'avait reconnu peut-être, mais il y en a plein qui la reconnaissent et qui passent à travers.
Ouais. Alors, Cyril, tu le disais tout à l'heure pendant le direct. C'est vrai que le sens tactique, il en entendait parler alors qu'il ne parlait pas encore, hein, puisqu'on rappelle que Tony Gallopin est le fils de Joël Gallopin, qui a disputé plusieurs Tours de France, et le neveu d'Alain Gallopin, qui est aujourd'hui directeur sportif de la formation Trek et qui a lui aussi fait une belle carrière de coureur cycliste. Toute la famille est dans le vélo. Sa fiancée, Marion Rousse, est également championne. Bref, le sens tactique, c'était l'essentiel des discussions à table.
Oui, on ne parlait que vélo à table. Ça me rappelle un peu la famille d'Anne Guillaume, où tous les d'Anne Guillaume avaient été pratiquement professionnels, et où on évoquait à chaque repas des faits de course, des situations de course, ce qui fait que Jean-Pierre avait lui aussi un sens tactique très très élevé. Mais c'est vrai que plus on entend parler tôt de ce qu'est véritablement le cyclisme, pas obligatoirement celui que l'on voit lorsqu'on est sur le bord de la route, mais au sein même, au cœur même du peloton, entre les différentes oppositions, l'aspiration, la façon de gérer son effort. Bon, tout ça, on l'apprend très très jeune. Et quand on a une culture cycliste comme là, Tony Galopin, ça n'est pas étonnant de le voir le jour, enfin, ou le jour, ou les jours où il a la chance d'avoir la forme de sa vie, et il l'utilise à bon escient. Il ne fait pas de faute. Quand il sort, bien il sort quand les leaders commencent à ne plus avoir d'équipiers, ou tout du moins d'équipiers qui sont suffisamment frais pour répondre à cette attaque. Il creuse un écart. Après, il fait sur le plan technique une descente parfaite. Il ne fait pas une faute. Il n'y a pas un endroit où il est en dehors de la trajectoire. Il n'y a pas un endroit où il aurait pu rentrer plus vite. Il est sorti vite où il fallait sortir vite. Donc ses adversaires avaient quand même beaucoup de difficultés. Et puis c'est pas le peloton qui revient le chercher. C'est seulement trois coureurs. Et pas n'importe lesquels, hein, on l'a dit, Jartoski, Rogers et puis Peter Sagan. Donc là, après, il se fait rejoindre, il fait un petit peu le mort, mais on lui demande rien, donc il respire, il se refait une petite santé. Et puis on comprend bien à un moment que ces quatre-là ne peuvent pas aller au bout, ça revient derrière, il y a une première accélération, Sagan fait l'effort, et là, il en met une et il s'en va vers la gagne. Alors c'est vrai qu'il gagne qu'avec 2-3 mètres d'avance. Mais enfin, il s'est relevé à 10 mètres de la ligne avec les bras levés.
L'important c'est de gagner.
Il a très bien géré d'ailleurs lorsqu'il était devant. Il a jaugé ses adversaires. Il s'est retourné au moment où il fallait se retourner pour voir ce qui se passait derrière, comment ça roulait, de façon à bien gérer son effort sur ces deux derniers kilomètres. C'est parfait. Il y a rien à dire.
Lucho, ça y est, nous a rejoint. On l'a retrouvé, notre Lucho national. Lucho,
je cours
bluffé par la perf de Tony Galopin aujourd'hui.
Mais bluffé, oui et non. Je pense qu'il a vraiment, enfin, bluffé. Il faut quand même le dire, parce que c'est vrai qu'avant le départ de ce Tour de France, qui l'aurait cru de voir le talent de Tony Galopin. Et puis, comme le disait Cyril, il prend le statut de vraiment d'un grand leader, quoi. Je crois que la formation Lotto Bilisol ne peut être que fière de ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui. Et d'autant plus que le Tour n'est pas terminé, qu'il a plus de pression, son contrat est rempli sur le Tour de France. Donc, c'est que du bonheur jusqu'à la fin du Tour. Il peut encore réserver pas mal de surprises, notre Tony. Donc, franchement,
en plus, il va être porté par le public, parce que là,
porté par le public. Mais oui, parce que le petit mania. Tony Galopin, qui était un petit peu en dedans, là, médiatiquement, et tout ça, on ne parlait jamais de lui, on parlait toujours de Thibaut Pinot, Perrault, les Français, Romain Bardet, et là on voit arriver un Tony Galopin époustouflant, adorable, voilà, je crois que c'est vraiment le rayon de soleil du cyclisme français aujourd'hui.
Très bien, Tony Galopin, le rayon de soleil, il l'a dans le cœur, il l'a sur le sourire, il ne pouvait espérer mieux que ce Tour de France, on l'écoute tout de suite.
Je peux pas espérer mieux, c'est peut-être une autre victoire d'étape, mais voilà, faut pas être trop gourmand, c'est incroyable. Comme j'avais dit, je suis passé professionnel il y a 7 ans. J'avais dit, si je gagne une belle classique et une victoire sur le Tour, je pourrais être heureux de ma carrière. J'ai Saint-Sébastien, j'ai une étape du Tour, le maillot jaune. Voilà, je suis juste un coureur comblé et maintenant, j'espère que ça va continuer.
Lucho, est-ce qu'on peut changer comme ça de registre au cours d'une carrière? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut passer du statut de chasseur de classique à celui de chasseur de classement général sur le Tour?
C'est difficile quand même. Comme le disait Cyril, Alain, il a pas du tout tort dans le sens où Tony peut devenir champion du monde, mais de là peut-être monter sur le podium et viser le classement général du Tour de France, ça c'est une autre paire de manches. Il faut être vraiment un très très grand grimpeur pour pouvoir remporter le Tour de France. Et il a d'énormes qualités, certes, mais les grandes qualités qui lui manquent pour qu'il puisse remporter le Tour, c'est ses grandes qualités de grimpeur. Voilà, mais sinon au Tour, il a tout pour faire un grand coureur, mais sur le Tour de France, sur un grand Tour, ça sera quand même difficile.
Ouais. Cyril, c'est les qualités de grimpeur qui lui manquent ou c'est les kilos qu'il a en trop?
C'est sa morphologie qui fait que, parce que le, bon, on a,
enfin, il est pas gros, hein, on peut en
faire un kilo pour 1m80.
Ouais. Il a un très gros moteur, mais avec le même, il y a d'autres coureurs qui ont le même moteur, voire des moteurs peut-être même moins, avec une cylindrée moindre, mais qui ont 3-4 kilos de moins à monter, c'est énorme.
Un châssis un peu plus léger. Voilà.
Alors, c'est simple, regardez, si vous prenez l'étape de la planche des Belles-Filles, il a le maillot sur le dos et il cède quand même son maillot et il finit quand même à 4 minutes.
Oui, mais c'est
on n'a pas l'ISOA. Mais attendez, on n'a pas l'Izoard avec Champs-Rousses derrière, on n'a pas l'étape des quatre grands cols dans les Pyrénées avec Tourmalet-Aubis, Aspin-Persourde. Attendez, il faut
pas se précipiter, quoi.
Il faut quand même regarder les choses avec un peu de lucidité, un peu d'objectivité. Tant mieux si c'est possible. Ça veut dire qu'il faut qu'il prenne encore d'autres crans que ce qu'il a aujourd'hui.
Non, Cyril, pas cette année, mais dans les années futures.
Les
prochaines années, là. S'il prend conscience de tout ça et qu'il travaille un peu plus la montagne en perdant un peu de kilos, peut-être qu'il peut aspirer à jouer les cinq premières places du général.
Ouais, mais quand t'es grimpeur, t'es sûr
qu'il a du poids à perdre là aujourd'hui?
Il a pas de poids à perdre, Tony.
Il a pas de poids à perdre.
Tu es né rouleur, sprinter, homme de classique, voilà. Mais après, tu peux pas changer ta façon d'évoluer dans le vélo, de devenir tout de suite un grand grimpeur et de se dire je vais gagner le tour parce qu'il a pris le maillot jaune. Je crois qu'on tombe un peu, on est euphorique aujourd'hui, ok.
Oui,
il faut pas aller au-delà de tout ça, quoi. Je veux dire, c'est formidable tout ce qui arrive, mais il faut pas non plus mettre des plans sur la comète en disant, oula, punaise, on va le faire travailler, mais il peut peut-être gagner le tour, ceci, cela. Non, il faut.
De toute façon, on sera vite fixé, dans 3-4 jours,
Oui.
Dans 2 jours.
Non, mais je pense que cette année, de toute façon, c'est.
Non, mais il a beaucoup donné déjà, là.
Il a beaucoup donné, c'est ce que disait tout à l'heure Alain Galopin. C'était pas vraiment dans l'immédiat qu'il pouvait éventuellement envisager de jouer le général, mais plutôt dans les années à venir. En tous les cas, on continuera évidemment de s'intéresser à Tony Galopin et on suivra sa progression avec beaucoup d'intérêt.
15h22 sur RMC, on est en train de revivre les meilleurs moments de cette deuxième semaine du Tour de France 2014. Vous le savez, aujourd'hui, journée de repos du côté de Carcassonne. On y sera en direct, l'intégral tour, à partir de 17h. Restez avec nous dans un instant. On revient sur la stratégie de l'équipe Europcar qui fait beaucoup débat au sein de la Dream Team RMC Sport depuis le départ de ce tour.
RMC, intégral tour. RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
15h25 sur RMC, nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour revivre les meilleurs moments du Tour de France 2014. Beaucoup de débats dans l'Intégral Tour depuis le début de ce Tour de France, notamment sur la stratégie de l'équipe Europcar. C'était jeudi, jour de l'étape entre Bourg-en-Bresse et Saint-Étienne.
Il y a Péric Kemener qui est en train de sortir du peloton avec Cyril Gauthier. Le même scénario qu'hier, les deux coureurs de l'équipe Europcar qui, ne jouent pas forcément la carte Brian Coquard, ou alors ils tentent de servir les intérêts de leur sprinter en prenant de l'avance et en faisant rouler, par exemple, les coureurs de l'équipe Giant Shimano ou les Cannondale de Peter Sagan à 31 km de l'arrivée. 1 minute 30 derrière le duo tête. Un autre duo sort du peloton. Péric Kemener et Cyril Gauthier lancés à la chasse de Langeveld et Simon Clark.
Mais le risque, Cyril, l'autre chose, c'est de faire péter Brian Coquard, non? Si le rythme du peloton s'accélère.
C'est ce qu'ils sont en train de faire. En fin de compte, ils ont pas roulé pour Coquard tout à l'heure. Ils ont roulé pour faire sortir Gauthier et Kemener, peut-être aux avant-postes et attendre la sortie peut-être de Vauclair derrière pour rejoindre Kemener et Gauthier et aller peut-être sur l'arrivée.
Ou les deux, mon capitaine.
Ça peut annoncer aussi peut-être une sortie de Vauclair derrière, on sait jamais.
Et l'avance continue de décroître, 18 secondes au dernier point. Pourtant, les trois hommes donnent tout dans la descente, Lucho, mais face à un peloton lancé comme ça à vive allure, c'est
non. Et puis oui, après il y en a que deux qui roulent, c'est les Europcar. On voit mal comment Gauthier, Kemener et Clark peuvent arriver au bout. Franchement, ça va être très très dur.
Et Péric Kemener a lâché. Ils ne sont plus que deux à l'avant. Cyril Gauthier a bien du mal devant le peloton. On est à moins de 7 km de l'arrivée. Le duo tête est en train de se relever. Gauthier et Clark attendent le peloton.
Brian Coquard qui termine 7e. Coquard dont on espérait peut-être une victoire aujourd'hui, Lucho, on en parlait.
Oui, mais quand on regarde la fin de l'étape, quand tu vois Kemener
et Gauthier
attaquer dans le final, c'était pas trop pour emmener Coquard dans le final. Donc voilà, on peut toujours poser la question.
Ils ne font pas partie du train de Brian Coquard pour l'amener au sprint.
Ils peuvent pas l'emmener, ce sont pas des sprinteurs, c'est pas des rouleurs.
Ça réduit les chances de Coquard, à savoir que quand tu attaques dans une dernière montée comme celle d'aujourd'hui, tu réduis les chances de ton sprinter. Tu mets un petit peu, tu mets un petit peu dans le rouge ton sprinter.
Mais d'un autre côté, c'était peut-être aussi pour éliminer les autres sprinters qui ne passent pas les côtes.
Si tu veux éliminer les autres sprinters, tu n'attaques pas. Tu roules un train soutenu, très soutenu, pour éliminer les principaux leaders du sprint.
Alors, la tactique Europcar mise en cause, hein, on a plein de messages sur le hashtag RMC Live. On va tout simplement poser la question au patron, puisque Jean-René Bernadot est en direct dans l'intégrale Tour. Ce soir, il est aux côtés de Pierre-Yves Leroux dans l'hôtel à Saint-Etienne. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Christophe. Il est prêt, hein, Jean-René, il est prêt à répondre.
Il est batailleur. Bonsoir, Jean-René.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Jean-René.
Bonsoir, Bourgui.
Bon, je te sens passablement agacé, non?
Ah non, moi j'aime bien parce que au moins il y a un vrai débat qui ressemble à RMC. Hein.
Ah ben bon, ça c'est sûr.
Jean-René,
on le sait, oui.
Alors Jean-René, tu as entendu ce que disait il y a quelques instants Lucho. Quelle était la tactique aujourd'hui des Europcar? Est-ce que c'était tout pour Coquart? On l'a pensé pendant un grand moment. Et puis finalement, on a vu Gauthier et Kemener sortir dans la dernière bosse. Qu'est-ce que vous vouliez faire aujourd'hui? Quelle était la tactique, en fait?
La tactique, elle a été respectée. Sauf que quand on lance Kemener et avec Gauthier dans la roue, on pense que ça va réagir. On pense qu'on va mettre le curseur un peu plus haut, qu'il y a une bonne bagarre qui va se déclencher. Parce qu'on n'a pas les moyens, d'abord. On n'est pas une équipe qui a les moyens de faire ce que vous avez dit. On ne peut pas rouler pour éliminer les sprinters, pour laisser Coquart seul. Donc on fait ce qu'on peut avec nos moyens. Et aujourd'hui, on espérait une petite bagarre, puisque Brian avait les jambes pour passer cette côte qui lui convenait bien. Donc voilà, une course un peu plus décousue. Et puis si ça ne rend pas, si deux ou trois coureurs accompagnent Gauthier, c'est ce qu'on espérait. Je pense qu'il y avait un coup à jouer, un vrai coup à jouer, puisque le final était vent dans le dos et un groupe de 4-5, on le reprend pas comme ça, puisqu'on sait que Sagan fait souvent deux et il avait du mal à encore mettre son équipe à l'ouvrage aujourd'hui.
Mm-hmm. Cyril, le druide, es-tu convaincu par les explications de ton ancien coureur qui a été formé à bonne école, évidemment?
Convaincu, non pas trop, parce qu'on a du mal à suivre, parce qu'à un moment... Il y a deux coureurs qui viennent rouler avec les Giants.
On relance derrière la course pour arriver dans des écarts raisonnables au pied de la grande difficulté, enfin celle qui avait qui était répertoriée comme la plus belle. Gauthier a attaqué dans la route Kemener en espérant que d'autres coureurs. Donc je le répète clairement, on a rapproché le par Pichot. Et par Gênes, on a rapproché l'écart, on a réduit un peu l'écart où il s'est pas agrandi pour préparer l'attaque de Gauthier avec Kemener en espérant qu'on ait deux ou trois coureurs de deux ou trois équipes qui ne peuvent pas jouer au sprint pour mettre le curseur un peu plus haut, mettre la barre un peu plus haut. Et puis ça nous ressemble d'être attaquants et quand le jour où on ira au bout, on dira que c'était une bonne tactique.
De toute façon, quand on gagne, on a toujours raison, Jean-René.
C'est vrai.
Mais de toute façon, moi, on va pas critiquer les mecs qui vont de l'avant, hein, qui vont attaquer. Vous l'avez fait.
Là, je vais répondre à Cyril aussi. Nous, notre équipe, elle fait que ses moyens. On nous compare à quoi? On nous compare à des gens qui ont 3 fois, 4 fois plus de budget. Cyril est bien placé pour en parler parce que son équipe de Roubaix nous a jamais trop gêné non plus et que c'est un budget 4 fois moins important que la mienne.
Plus que 4 fois moins.
Peut-être 5 fois à peu près, je connais. Donc aujourd'hui, nous, c'est à peu près le même schéma. Donc on fait malin, on fait juste avec nos forces vives qui sont bien précises. Et puis n'oubliez pas que Coquart, il grimpe mieux qu'on pense. Et aujourd'hui, il a besoin de faire un sprint avec des gens un peu moins gros, un peu moins lourds, un peu moins puissants pour pouvoir avoir des chances. Mais on espérait une arrivée à 40 coureurs, pas une arrivé à 70.
Jean-René Bernadot, le manager de la formation Europcar, est avec nous en direct ce soir dans l'intégral Tour. Jean-René, c'est vrai que ça doit pas être évident quand même pour vous, c'est un peu le cas également pour la FDJ.fr, de miser sur deux leaders, à la fois un leader dans le sprint et un leader pour le classement général. On voit par exemple que les équipes qui ont un sprinter comme Kittel misent tout sur le sprint et d'autres misent tout sur le général. Pour vous, c'est un peu courir deux lièvres à la fois, c'est compliqué.
Non, pas du tout, non. On a amené personne pour Brian. On n'a pas amené de Jimmy Engoulevent, par exemple. On a voulu qu'il se fasse les dents, il a voulu qu'il prenne un peu de caisse, il a besoin de finir ce tour pour l'attaquer l'an prochain avec une dimension supérieure, il a besoin de s'étoffer. Et aujourd'hui, on n'a pas fait une équipe autour de Brian. On a la bonne nouvelle de Kevin Reza qui qui trouve des automatismes parce que ce sont d'abord des bons copains, c'est notre bonne nouvelle. On n'a pas bâti une équipe autour de Brian, on a bâti une équipe autour de Pierre. Et Pierrick Kemener, par exemple, lui est sélectionné uniquement pour Pierre Roland.
Ouais, Jean-René, on lisait ce matin une interview de Pierre Roland qui disait l'année prochaine, je ferai peut-être pas le Tour de France. Et ce qui serait bien, c'est que la formation Europcar se mette au service de Brian Coquart. Est-ce que tu nous confirmes que ça pourrait être une éventualité? Et est-ce que ça fait partie de l'ADN des équipes françaises, justement, de tout miser sur le sprint?
C'est vrai qu'on pense beaucoup à fabriquer un train. Un train, ça coûte cher. Donc aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'aller chercher des gens qui ne seront pas forcément honnêtes et qui coûtent très cher. Donc on a recruté Arnaud Maurice qui arrive du Vendée U. Julien Maurice qui arrive du Vendée U, qui a le profil poursuiteur olympique pour pouvoir rouler vite dans le final. On espère en faire un pilier avec Engoulevent et avec un ou deux coureurs style Reza, qui est une révélation. Mais aujourd'hui, Pierre Roland est notre leader et Brian doit prouver aujourd'hui qu'il prend un peu de puissance pour pouvoir rivaliser partout, parce qu'aujourd'hui Brian peut gagner sur le Tour dans une arrivée un peu plus dure et il aura un adversaire, c'est Sagan. Mais dans un autre registre comme aujourd'hui, il a une dizaine d'adversaires.
Le 32-16 est ouvert évidemment, vous pouvez poser vos questions à Jean-René Bernaudot, le manager de la formation Europcar. Bertrand est avec nous au 32-16, il voulait poser une question ou peut-être tout simplement dire un mot à Jean-René. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir messieurs, bonsoir Jean-René. Ben, je suis Vendéen, je suis un supporter depuis... Déjà, je voudrais dire merci à Jean-René, parce que depuis la création de Bonjour, jusqu'à en passant par Brioche, B-Box et Emmanuel Robcar, la Vendée avait besoin de ça, avait besoin de s'accrocher au vélo, avait besoin d'une locomotive. Je pense que tous les jours sur la route, il doit bien le sentir. Quand j'étais jeune, moi j'ai 40 ans, Jean-René, c'était le gitan du bocage, tout le monde attendait le résultat de Jean-René, donc je voudrais moi lui dire merci de par moi et tous les supporters d'Europe Car, déjà pour commencer.
Merci beaucoup, c'est touchant.
Et justement, on est toujours assez inquiet parce qu'on sait qu'Europe Car a signé 2 ans, on est toujours un peu sur qu'est-ce qu'on fera l'année prochaine, et je voudrais savoir si déjà tu avais, parce qu'on part de l'année prochaine, mais Europe Car, je sais pas, mais il me semble que c'est, ils ont signé 2 ans, donc ça va se terminer en fin de saison.
Non mais donc, c'est Mali, la recherche de sponsor.
Voilà, c'est ça.
On sera Europe Car en 2015, évidemment, l'équipe s'appellera Europe Car en 2015. Mais l'avenir 2016 et 2017 se présente très très bien. On a fait un bon travail de fond, on a construit un projet pyramidal qui plaît beaucoup. On a plutôt une philosophie qui convient à des entreprises qui ont été un peu déçues du vélo. Et aujourd'hui, 85% de mon effectif arrive du sport études de Richard Tremblay et arrive du Vendée U. Donc aujourd'hui, on a fabriqué un label. Ce label donne des garanties de santé, d'éducation. Et l'avenir se présente bien pour nous. Aujourd'hui, rien n'est signé. Mais je pense qu'on a une belle histoire qui va durer longtemps.
Eh ben merci Bertrand, en tous les cas, d'avoir composé le 32-16, d'être venu encourager Jean-René Bernaudot et sa formation Europcar. Jean-René, on a dépassé la mi-tour. Comment tu juges pour l'instant le tour de ton équipe?
Écoutez, on a notre leader à 6 minutes et le tour commence. Première étape des Alpes demain. N'oubliez pas quand même que le menu qui nous a été proposé est copieux et aujourd'hui on a fait quelques belles classiques jusqu'à présent. On a été dans des moments très tendus, beaucoup de nervosité, beaucoup d'accidents. Aujourd'hui l'équipe Europcar n'a pas de blessés. Les 9 coureurs sont très bien. Donc aujourd'hui le tour commence, il y aura des défaillances. On le voit aujourd'hui, dès que ça roule un peu, c'est tendu, ça casse. Nous on est très optimistes, on pense que ce tour réservera des surprises. Il ne se gagnera peut-être pas demain ni après-demain, mais il peut se perdre demain et après-demain pour certains.
Lucho, tu voulais poser une question à Jean-René.
Oui, salut Jean-René. Qu'attends-tu de Pierre Roland sur la suite du tour et notamment demain et après-demain, parce que c'est 2 grosses étapes alpestres, et quand tu regardes un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, tout le monde dit c'est une étape de transition. Pour moi c'est pas une étape de transition quand tu vois un petit peu la chaleur qui a eu aujourd'hui du départ jusqu'à l'arrivée, avec les difficultés qu'il y a eu tout au long du parcours. Demain c'est tout autre chose. Tu attends quoi de Pierre Roland là?
J'attends d'abord du peloton. On a un grand favori, c'est Nibali. J'attends, nos réussites, on les a eues dans des étapes difficiles où les hostilités se sont lancées de bonne heure. Je me souviens des exploits de Thomas et de Pierre Roland. Ça, si vous vous rappelez, la Toussuire et l'Alpe d'Huez, ça a mis en route de bonne heure. Donc nous, on est là pour gagner des étapes, on est là pour faire des exploits, et la conséquence sera une rapprochée au général de Pourpierre. Il est condamné à faire un exploit, mais s'il y a une course d'ouverture, on peut pas. Nous, on a fait quatrième du tour, on court pas pour faire quatrième du tour. Mmh. On court pour l'histoire, on court pour l'émotion et la gagne. La gagne est nécessaire pour le développement de l'équipe, et gagner des étapes du tour, c'est la priorité absolue. Et quand on gagne une étape du tour en montagne, on se replace au général.
Jean-René, on parle beaucoup depuis le début de ce Tour de France, du tour très réussi des jeunes coureurs français, jeunes coureurs de la formation G2R ou de la formation FDJ.fr, un peu moins d'Europe Car. C'est vrai que cette année, on parle un peu moins de vous quand même, non?
Romain Bardet et Thibaut Pinot méritent amplement, parce que ce sont des coureurs de demain, c'est eux qui vont faire du bien. Thomas Vauclair a décomplexé les Français. Quand je vois Romain Bardet et Thibaut Pinot, c'est du bonheur, parce que ils ont du culot. Je lis parfois certains interviews de ces coureurs, ils ont du panache. J'espère qu'ils prendront des risques pour écrire l'histoire comme a fait Thomas Vauclair par le passé. Mais ça me fait vraiment du bien, parce que quand le cyclisme dans les équipes françaises va bien, moi je vais mieux.
Et oui.
C'est pas nous qui comptons, c'est que le cyclisme aille bien. Et quand le cyclisme ira formidablement bien, l'équipe Europcar ira très bien.
Il y a quand même concurrence au sein des équipes françaises.
Il n'y a pas de concurrence. On a eu notre part de succès, on a eu notre part de médiatisation. C'était devenu même gênant parfois, parce qu'on est une équipe atypique, qui a un label, qui a creusé des particularités avec même le racisme. Par exemple, on a un peu ri de moi il y a longtemps pour des coureurs de couleur. Aujourd'hui, Kevin Reza me donne un bonheur immense, avec mon vieux capitaine Johan Gen. Donc voilà, on vit dans notre monde qui me donne beaucoup de plaisir. C'est mon équipe, et après le cyclisme, il nous méritera, parce qu'on ne changera rien. Ça ne m'intéresse pas de faire plaisir. On travaille les détails pour aller au bout de nos idées. Et ensuite, que Thibaut Pinot soit un grand coureur, c'est formidable, et que Romain Bardet en soit un, c'est formidable. Le qui gagne, gagne, tout le monde sera heureux. Le qui perd. Par le passé, on a bien vu que les Français n'avaient rien à gagner à faire le qui perd. Moi, je suis vraiment pas jaloux des autres. Moi, ma vie a été très belle. Le cyclisme m'a tout donné. Je suis un fils de paysan. J'ai redonné au cyclisme une partie de ce qu'il m'a donné. Et quand tout va bien chez les autres, ça va bien chez moi.
Les explications de Jean-René Bernodeau, le manager de l'équipe Europcar face à la Dream Team RMC Sport. C'était jeudi dernier. On vit ensemble les meilleurs moments du Tour jusqu'à 17h. Il est 15h39 sur RMC. C'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu Pro Cycling Manager, la simulation officielle du Tour de France sur PC, le jeu de société L'Échappée Infernale et le livre Jour de Fête, la grande histoire du Tour de France aux éditions Chronique, et surtout deux places VIP pour assister dans les meilleures conditions à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau appelé le 32-16, touche 6, ou envoyez RMC par SMS au 7-32-16. Bonne chance. Dans un instant, la victoire de Vincenzo Nibali à Champs-Rousses avec des Français aux avant-postes. On revit les meilleurs moments de ce Tour de France 2014.
RMC Intégral Tour. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr.
Et journée de repos donc sur ce Tour de France 2014, on est à Carcassonne, on ira en direct retrouver Fred Adam et toute la Dream Team à partir de 17h avec pas mal d'invités pendant cette journée de repos. On va en profiter aussi pour vous faire un petit point sur le classement général, je vais le rappeler, avec 4 Français dans les 10 premiers. Alors pourquoi bouder ce plaisir? Vincenzo Nibali en tête, Valverde deuxième à 4,37, Bardet 4,50, quatrième Thibaut Pinot à 5 minutes et 6 secondes, cinquième c'est l'Américain Van Garderen à 5,49, sixième Perrault, donc autre Français à 6 minutes 08, septième Mollema à 8,33, neuvième Koenig à 9,32, neuvième Tendam à 10,01 et dixième c'est donc le quatrième et dernier Français de ce top 10, Pierre Roland à 10 minutes et 48 secondes. Ils ne sont plus que 170 d'ailleurs, puisque on l'a appris tout à l'heure, le Britannique Simon Yates de l'équipe Orica Greenwich vient d'abandonner. Il ne sont plus que 670. Communiqué de son équipe Orica Greenwich, Simon Yates est rentré chez lui pour se reposer. C'est vrai qu'il était quand même long en classement général. 83e à 2h17. Évidemment très très fatigué. Demain, ce sont les Pyrénées, étape la plus longue de ce Tour de France. Carcassonne, Bagnères de Luchon, c'est 237 km avec du très lourd au programme. Le col de Portée d'Aspet de deuxième catégorie, le col des Arts, troisième catégorie, et puis surtout le port de Balès, classé en hors catégorie par les organisateurs du Tour de France. L'arrivée de cette étape ne sera pas au sommet de ce port de Balès, hein. Il faudra redescendre une longue descente très sinueuse, très étroite, jusqu'à Bagnères de Luchon. C'est là que aura lieu la dernière arrivée. D'ailleurs, les deux dernières arrivées à Bagnères de Luchon ont été remportées à chaque fois par Thomas Vauclair. On se retrouve dans un instant pour revivre encore les meilleurs moments de ce Tour 2014. A tout de suite.
Appelez RMC au 3216, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
15h44 sur RMC, on vous accompagne jusqu'à 17h. On revit les meilleurs moments du Tour dans l'Intégral Tour. Retour sur un moment fort de ce Tour de France, avec des Français à l'attaque. C'était dans l'étape Saint-Étienne-Champs-Rousses vendredi dernier.
Et à 12 km de l'arrivée, attaque de Thibaut Pinot à l'instant même, Fred.
Accélération effectivement du grimpeur de la FDJ.fr à 12 km de Champs-Rousses avec Pinot sous les yeux de Georges Turlamoto.
Exactement, il s'est mis debout en danseuse le coureur de la formation FDJ.fr, mais ça réagit dans sa roue avec Valverde qui est derrière lui. Il n'a pas creusé l'écart, mais il a juste étiré ce groupe maillot jaune. Pinot avec Valverde dans sa roue. Et il y a le maillot jaune Nibali en troisième position. Romain Bardet est là également avec son maillot blanc. Le groupe maillot jaune ne figure plus depuis quelques instants. Le deuxième du général, Richie Porte, l'Australien, et le dernier coéquipier, Kangert, coéquipier de Nibali. Il n'a plus de coéquipier autour de Vincenzo Nibali. Et Pinot qui continue d'accélérer, qui se met en danseuse, mais toujours suivi par son ombre, comme par son ombre, par Valverde et Nibali. Ils sont, allez, 6, 7, 8, 9, 9 derrière lui environ.
Attention, ça sort à l'avant du peloton maillot jaune. C'est Alejandro Valverde, le troisième du classement général ce matin, qui a compris que peut-être c'était son jour. Alejandro Valverde qui profite de la défaillance de Richie Porte pour enfoncer l'Australien de l'équipe Sky et pour tester une première fois aujourd'hui Vincenzo Nibali. Nibali qui répond avec dans sa roue Thibaut Pinot.
Voilà, Nibali qui a répondu, qui a regardé d'abord si d'autres tentaient de prendre la roue de Valverde. Personne n'y est allé, donc il y est allé lui-même. Et Thibaut Pinot qui s'arrache maintenant pour tenter de revenir dans la roue du maillot jaune. Georges, la moto RMC, est-ce que tu vois les trois hommes? Non, pas pour l'instant a priori. Georges.
Non, parce qu'on est intercalé devant avec Léopold Koenig et c'est en train de revenir derrière. On voit le casque de Valverde. Ouais, les favoris se rapprochent de la tête de course.
Attention, attaque de Nibali. Attaque de Nibali
derrière.
Accélération du maillot jaune sur la droite de la route. Georges, à toi de jouer.
Le maillot jaune, ouais, effectivement, qui vient l'attaquer. C'est Thibaut Pinot qui fait la chasse derrière avec Alejandro Valverde. Mais attention, il vient de faire un petit trou, l'Italien, dans ce virage à droite. Il est parti à toute vitesse. Le requin de Messine qui, voilà, ça réagit vraiment avec Pinot qui est en train d'essayer de revenir dans la roue. Mais l'Italien fait une très forte impression. Attaque violente de Nibali qui regarde derrière lui, qui est en train de voir peut-être revenir Pinot et Valverde. Non, il semble avoir creusé un écart quand même, Nibali.
Ah ouais, gros écart creusé en quelques secondes à peine par le requin de Messine qui est en train tout simplement de remporter le Tour de France. Il a surpris Pinot et Valverde. Tendam lui a été lâché. Pinot a tenté de réagir, mais il était un peu juste, Fred.
Accélération, grand plateau de Vincenzo Nibali dans cette ultime ascension à un peu plus de 6 km 500 de l'arrivée. Vincenzo Nibali qui assomme le Tour de France, lui qui comptait plus de 2 minutes 20 sur son dauphin Richie Porte à la dérive aujourd'hui ce matin. Vincenzo Nibali qui rentre sur le duo de tête.
Voilà, là il a fait l'écart, là il a fait l'écart, Vincenzo Nibali qui a rejoint le groupe de tête, qui a rejoint Machka et Koenig. Ils ont passé une épingle depuis un petit moment là, et on voit derrière, allez, 150 mètres, 200 mètres derrière le groupe avec Pinot et Valverde. Nibali qui s'est maintenant positionné à l'avant du groupe, c'est lui qui prend les relais devant Koenig et Machka, c'est lui qui a pris les responsabilités. Le maillot jaune, on est dans une ligne droite, l'ascension, on n'est pas sur les pentes les plus pentues hein, depuis sur les pentes les plus difficiles depuis le début de cette ascension. Nibali qui accélère au train, Machka a du mal à suivre, mais pour l'instant l'écart est assez important. On a du mal à voir derrière le groupe maillot jaune désormais les maillots de Pinot et Valverde.
Valverde qui attaque, Valverde qui attaque et qui tente de décramponner Thibaut Pinot, mais celui-ci s'accroche. Le jeune grimpeur français qui s'est accroché, qui a réussi à prendre la route de l'Espagnol, mais devant Nibali, toujours aussi impérial, accompagné de deux hommes. C'est Nibali qui fait la course en tête. Les deux hommes ne semblent pas dans la forme de leur vie actuellement, à maintenant 4 700 km de l'arrivée. La moto RMC avec Georges Quirino.
devant le maillot jaune de Vincenzo Nibali, le patron du Tour en première position sur cette étape, accompagné de Koenig et Majka. On a vu sous la banderole des 5 km Léopold Koenig tenter d'accélérer, en tout cas de passer devant le requin de Messine. Et bien il a tout de suite repris les devants, Vincenzo Nibali toujours qui emmène ce groupe de tête, et on commence à voir derrière les voitures qui suivent Valverde et Pinot qui se raccrochent un petit peu. On est toujours sur des routes très larges, la chaussée qui s'élève un petit peu plus dans cette ascension, avec derrière nous toujours Vincenzo Nibali qui est désormais en deuxième position puisqu'il a été relayé par Léopold Koenig, mais il reprend les devants, le regard Messi.
La flamme rouge pour Vincenzo Nibali.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Une troisième victoire d'étape pour le requin de Messine dans quelques instants. Toujours aussi serein Nibali, le maillot jaune à peine ouvert. Il a ses lunettes de soleil sur les yeux, il a la bouche ouverte, mais il maîtrise son effort parfaitement.
Attention, un coureur est en train de revenir de l'arrière derrière Nibali. Peut-être que la caméra écrase, mais Rafał Majka, le polonais de l'équipe Tinkoff Saxo, qui était là pour porter les bidons pour Alberto Contador, qui, on vous le rappelle, a quitté le Tour sur la 10e étape. Et bien aujourd'hui, sur cette 13e étape, en direction de Champs-Rousse, et peut-être en train de revenir sur Nibali. Nibali qui ne se met pas en sur-régime, qui n'est pas dans le rouge, il ne l'a jamais été sur ses 18 km d'ascension. Nibali qui compte toujours 50 secondes d'avance sur le duo Valverde-Pinot, qui à son tour passe sous la flamme rouge du dernier kilomètre et qui se relaie, ça y est, on s'entend, ouais, entre l'Espagnol de la Movistar et le jeune grimpeur de la FDJ.fr.
Il a fallu se flinguer tout à l'heure pour que finalement l'entente se fasse entre Pinot et Valverde, qui donne tout là aussi dans les derniers hectomètres de cette 13e étape.
Vincenzo Nibali qui va remporter dans quelques instants sa 3e victoire d'étape sur ce 101e Tour de France après Sheffield et la planche des belles filles. Vincenzo Nibali marque d'une pierre blanche une nouvelle fois ce Tour de France. C'est bien lui le taulier du Tour de France. Il lève les deux bras et passe en roue libre. Personne ne pourra a priori lui contester la victoire sur ce 101e Tour de France.
La victoire pour Vincenzo Nibali, 3e victoire d'étape. C'est Majka, le polonais coéquipier le Contador, qui termine troisième, et Koenig qui va terminer troisième dans quelques instants.
Thibaut Pinot est à 52 secondes. Romain Bardet conserve le maillot blanc, exactement, le maillot blanc, et du coup monte sur le podium. Thibaut Pinot est à la 4e place du général. Cette fin de Tour de France nous promet une belle lutte entre les deux plus grands espoirs du cyclisme français pour les classements généraux sur les grands tours. Ils ne sont séparés ce soir ici à Champs-Rousse que de 10 petites secondes.
Les Français sont là, on le rappelle. Thibaut Pinot qui prend la 5e place de l'étape, Romain Bardet qui est 7e et Jean-Christophe Perrault qui est 9e. Ce qui nous donne donc au général 3e, Romain Bardet qui monte ce soir sur le podium du Tour de France. Certes, il est loin hein, puisqu'il est à 4 minutes 24 de Nibali. Thibaut Pinot est 4e avec un retard de 4,40 et Jean-Christophe Perrault 6e à 6,06. Du coup, il y en a 3, il y en avait déjà 3 hier, mais il y en a toujours 3 pour le podium. Alors, Thierry, qui, à ton avis, est le plus susceptible de monter sur le podium, s'il y en a un des deux qui doit monter sur le podium sur les Champs-Élysées dans quelques jours?
Sur ce que j'ai vu aujourd'hui, Pinot a l'ascendant. Il a eu deux belles attaques. Il avait la bonne soquette, comme on dit dans le jargon cycliste.
La soquette légère.
Par contre, il y en a un qui me paraît un peu à la peine et qui était à la peine aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Perrault qui était.
Qui a
à
souffert
fond
de la chaleur. Hein.
Mais il était à fond. Mais alors là aussi, il y a un dilemme dans cette équipe. Il y a deux têtes sur la même équipe, et là on a bien vu, il y en a pas un qui se dévoue pour l'autre. Bardet faisait tout ce qu'il pouvait, et Perrault était à fond dans les roues, mais il arrivait à suivre, voire même à contrer pour revenir sur Bardet. Donc là il y a une petite interrogation, tactique de course, on voit l'ancien Jean-Christophe qui laisse faire la jeunesse et la fougue de la jeunesse, voilà. Après, oui...
Alors Pinot ou Bardet sur le podium?
Ah bah si on s'arrête aujourd'hui, c'est Pinot. Pour moi, c'est Pinot. Après, c'est vrai que Bardet, sur une arrivée comme celle-ci, il n'y a pas assez de pourcentage pour lui. C'est pas sa tasse de thé. Mais Pinot, moi, je l'ai vu vraiment avec une belle pointe, une belle accélération. Il a su monter toujours au même rythme, avec des accélérations encore un peu plus fortes. Ouais. Franchement, un
avantage Pinot. 1-0 pour Pinot ce soir.
Ah oui, bon, largement, demain, largement.
Lucho, oui. Bardet, Pinot, est-ce que tu penses déjà que l'un des deux montera sur le podium? Parce que c'est pas fait encore, même si pour l'instant ils sont 3e et 4e, il y a un certain Van Garderen qui est juste derrière à la 5e place avec un retard de 5-19, donc il est à quoi, à 40 secondes derrière Pinot, et on sait qu'il marche bien dans le chrono. Est-ce que tu en vois un déjà sur le podium dans 10 jours à Paris?
Oui, ben je vois bien Thibaut Pinot. Pourquoi? Parce que il a quand même, bon, il a fait un petit écart par rapport à Van der Garden, mais bon, il a marqué des points psychologiques aujourd'hui. Ceci dit, il va lui falloir un matelas supplémentaire avant le contre-la-montre dans Bergerac et Périgueux, jusqu'à Périgueux. Mais je le sens bien Thibaut, il a une grande confiance en lui, il maîtrise bien la situation, il a quand même mené sur Valverde pratiquement toute la montée. Valverde qui a essayé de le lâcher et qui n'arrivait pas à le lâcher. Je pense que même par rapport à Valverde, tu sais, là on n'est que dans la première étape alpestre, et il peut se passer beaucoup de choses encore pour Valverde, parce que même s'il finit devant, Valverde, il n'est pas si bien que ça. Et a priori, on peut penser qu'il saute dans les prochaines étapes, peut-être pas dans la deuxième étape alpestre, mais dans les Pyrénées, ça risque d'être encore plus difficile pour lui, et Thibaut peut prendre l'ascendant. Donc moi c'est vrai, je vois bien Thibaut sur le podium, sur les Champs-Élysées, même peut-être à la deuxième place. C'est encore jouable pour lui. Tant qu'à Romain Bardet, il s'est très 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 bien comporté. C'est un super jeune, un très très bel espoir, et il peut prendre confiance en lui parce que la fin du tour approche encore. Il y a les Pyrénées, il peut faire pas mal de choses. Mais Thibaut, il est excellent aujourd'hui.
Alors on va les écouter tous les deux, nos deux héros français. On va commencer par Thibaut Pinot, à qui nos reporters tout à l'heure ont posé la question de ce podium qui se rapprochait. Thibaut Pinot, sa réponse.
Oui, il se rapproche, comme c'est sûr que maintenant le top 10, je suis en plein dedans, je suis peut-être quatrième au général, je crois, donc il faut que je me batte pour un top 5, et ensuite on verra sortie des Alpes pour voir le podium, mais pour l'instant on se bat du mieux possible pour gagner du temps sur ses concurrents derrière. La victoire, je sais pas, il faut vraiment qu'un Nibali ait vraiment un gros jour sans, parce que là c'est vraiment Nibali et les autres pour l'instant.
Voilà, Nibali et les autres, nous dit Thibaut Pinot. Que nous dit Romain Bardet quand on lui parle de ce podium, ou pourquoi pas de ce maillot jaune sur les Champs-Élysées? Sa réponse.
Je savais, quand je suis arrivé sur le Tour de France, j'avais pas la prétention de pouvoir battre Nibali. Je sais bien que c'est les phrases que vous aimeriez que je prononce, mais voilà, j'ai que 23 ans et je mesure encore le chemin, le travail qui me reste à faire pour accompagner les Froome, Contador et Nibali. J'essaie juste de travailler et de m'en rapprocher un peu plus chaque année. Personne n'est à l'abri d'une journée comme ça, surtout par ces chaleurs. Donc voilà, je suis content de ne pas avoir un jour sans aujourd'hui, c'est une journée de plus vers Paris.
Ils sont contents, ils sont ambitieux, Cyril.
Oui, alors on parle de Romain, on parle de Thibaut. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que Jean-Christophe Perrault était dans un jour sans.
Il le disait tout à l'heure en direct, il a vraiment beaucoup souffert de la chaleur. Hein.
Or, si on regarde les écarts, il n'est quand même qu'à une 42 de Romain Bardet sur le contre-la-montre, une 42. Si ça restait dans la situation d'aujourd'hui, sur le podium, ce serait Jean-Christophe Perrault.
D'accord. Pour toi, celui qui est...
Non, je dis si les positions restent voilà. Qu'elles sont, ah oui, si elles se confirment, le 3 sur le podium, c'est ou Perrault ou Van Garderen.
Oui, c'est les deux meilleurs rouleurs. De toute façon, si on part du principe que le demain, il y a le chrono, c'est sûr que c'est les deux hommes qui pourraient finir même tous les deux sur le podium.
15h57 sur RMC, donc les Français bien classés au général. On va en reparler entre 16h et 17h pour la suite de ces moments forts du Tour de France 2014. Je rappelle qu'à 17h, on sera en direct de Carcassonne pour la journée de repos. On revient après les infos, on revivra ce week-end très animé dans l'Intégral Tour.
RMC, Intégral Tour.